Et il est temps de passer à l'indispensable volet culturel de ce journal avec Marie et Raph. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour Rémi.
Bonjour à tous. Alors, au programme aujourd'hui, de mystérieux carnets oubliés, une bataille artistique et médiatique, et une revue des événements théâtraux pour cette fin de mois de novembre par Raph.
Alors pour commencer, Marie, tu vas nous parler d'un nouveau festival.
Oui, mea culpa, dans le dernier journal de la culture, je vous parlais de la fin de l'effervescence de la rentrée et avec elle de ces festivals. Mais certains continuent encore. Et c'est le cas d'Interférence, un festival qui propose un programme très riche autour de films documentaires, avec des rencontres entre réalisateurs, chercheurs et public. Donc cette année, sa première édition débutait le 15 septembre et se termine le 26 novembre.
Donc c'est dans une semaine, donc.
Oui, bon, en effet, dans une semaine. Alors j'espère que vous ne m'avez pas forcément attendu pour en profiter. Mais pour les retardataires qui, comme moi, avaient vu passer les affiches sans vraiment prendre note dans leurs agendas, il est encore temps de se rattraper. Donc, jeudi prochain, le 24 novembre, une rencontre a retenu mon attention. Il s'agit du documentaire d'Anne Georget, Festins imaginaires, qui propose un regard assez inattendu sur les camps nazis, le goulag et les camps japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah, encore un documentaire de plus sur l'univers des camps.
Eh bien non, justement, parce qu'ici, Anne Georget est partie à la quête de documents inouïs, des carnets de recettes de cuisine, rédigés dans l'enceinte de ces camps par des déportés, dont la faim et la mort peuplaient le quotidien. Alors c'est une somme documentaire qui n'avait jusque-là pas fait l'objet de recherches scientifiques et était restée dans les familles des déportés. Ce sont des carnets intimes rédigés dans la plus grande clandestinité qui interrogent et qui fascinent entre une tentative de sauver un héritage immatériel ou un moyen d'échapper à l'horreur. Par exemple, une rescapée témoigne dans le documentaire. Elle dit « En parlant de ces repas somptueux, nous avalions notre salive et nous étions finalement repus, soulagés par une satiété imaginaire. » Donc soumise à la réflexion de philosophes, d'historiens, de psychanalystes ou de neurologues, cette littérature d'apparence triviale, rédigée à plusieurs endroits du monde par des hommes et des femmes de tous âges, semble ici porter en elle quelque chose de l'humanité tout entière. Et c'est donc jeudi 24 novembre à 18h30 au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Et le Festival Interférence, lui, se clôture dimanche prochain lors d'une soirée spéciale.
Sur la scène internationale, une parution événement semble déjà faire polémique.
Et oui, Le Seuil a dévoilé ce mardi 15 novembre 65 dessins réunis dans un carnet et attribués à Van Gogh. Alors la réunion de ces dessins inédits devait constituer un gros coup pour l'éditeur qui les faisait paraître simultanément en France, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Donc présentés comme de véritables trésors, ces esquisses sont tirées d'un livre de contes à papier vierge qui sert de support à Van Gogh, tout juste arrivé à Arles. Et l'ouvrage restitue donc la trace d'un travail quotidien au plus près de l'artiste, conservant ainsi intacte une forme de spontanéité du trait qui est particulièrement émouvante.
On devrait donc se réjouir d'une telle découverte.
Oui, en effet, le succès aurait dû être total, mais c'était sans compter le retournement de situation lorsqu'à 2 jours seulement de la publication, 2 experts du musée Van Gogh d'Amsterdam affirment qu'il ne s'agit là que d'imitation. Donc c'est une remise en cause de l'authenticité, mais surtout une remise en cause de près de 2 années de travail et de recherche scientifique qui ont précédé la parution. Donc l'éditeur français s'est empressé de démentir dans une conférence de presse, affirmant que le musée Van Gogh n'avait pas assez d'éléments pour juger, avançant également dans une interview que l'émotion qu'il avait ressentie devant ses dessins avait été si forte pour lui qu'il ne pouvait pas douter de leur authenticité. Alors, on peut quand même un peu s'étonner de cet argument, s'étonner de l'absence de toute collaboration entre les équipes scientifiques des deux pays autour d'une telle découverte. Enfin bref, c'est une bataille d'experts qui vire à la bataille médiatique et qui prend un tour assez pathétique, voire grotesque. Entre communiqués de presse et réponses par médias interposés, on se demande si on doit rire ou pleurer de cette guéguerre pour qui obtiendra le monopole autour de l'artiste, et soyons clairs, le monopole des bénéfices engendrés. Alors qu'il y a 1 an, à New York, on atteignait une somme record pour la vente d'une toile de Van Gogh, 66 millions de dollars, rappelons simplement que celui-ci n'avait vendu qu'une seule toile de son vivant. Bon, on attend quand même la suite de ce feuilleton tristement rocambolesque, et le titre de l'ouvrage, Van Gogh, le brouillard d'Arles, semble prendre désormais une connotation bien ironique.